Salut la gang, bienvenue à ce 12e épisode de Femmes de fer. Mon invitée est l'une des femmes que j'avais mises au haut de ma liste quand j'ai débuté ce podcast. Vicky Boudreau est la cofondatrice de Bicom, une agence de relations publiques qui existe depuis plus de 10 ans. Ils ont des bureaux à Toronto, bientôt à Vancouver et peut-être à l'international. Vicky est impliquée dans mille et un projets. C'est une femme douce et lumineuse, mais ultra solide. Bref, une vraie femme de fer et on l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femme de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Momini, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô, Vicky!
Allô! Merci, Sophie.
Ça va. Merci tellement de faire cette entrevue-là avec moi. Comme je t'avais déjà dit, quand j'ai parti ce podcast-là dans ma tête, Vicky, je t'avais mis dans le haut de ma liste de femmes de fer que je voulais absolument être interviewée parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, Vicky. Ça fait des années. En fait, je pense que je t'ai connue la première fois dans un événement que Bicom organisait pour Eve Gravel. Et je commençais dans le milieu, puis je pense que vous autres aussi, ça faisait pas très longtemps que vous étiez dans le milieu, puis j'avais toujours été impressionnée par ce que vous aviez fait dans cet événement-là, mais aussi, après, on s'est suivis dans plusieurs événements, plusieurs aventures, plein de choses que vous avez développées avec Bicom, qu'on s'est jamais lâché, on se parle encore, on travaille encore ensemble, fait que c'est assez... ton parcours m'impressionne énormément. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir en entrevue pour ce podcast-là, ça c'est certain. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être m'expliquer un peu, tu travailles pour Bicom, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours?
En fait, j'ai cofondé l'agence avec mon associé Marie-Noëlle Hamelin, ça fait 13 ans maintenant. Notre pratique a beaucoup évolué au cours du temps. Aujourd'hui, on est une agence pan-canadienne qui se spécialise en communication intégrée. Et on fait des relations médias, on fait de la création de contenu, de la gestion, animation des réseaux sociaux, on fait de l'événementiel, de l'expérientiel, puis on a développé une expertise pointue en fait dans tout ce qui est attrait au marketing d'influence. Et pour certains de nos clients, ils vont retenir certains services, mais pour plusieurs d'entre eux, on va y aller d'une approche intégrée où on va faire de la stratégie et des tactiques qui vont toucher pas mal tous ces services-là.
Mais quand tu as commencé en fait avec ton associé il y a 13 ans, est-ce que c'était ça que tu voulais faire, une agence de relations? Comment tu voyais ça?
Mais en fait, quand on est parti ensemble, on avait envie de créer un milieu de travail, en fait, où on aurait aimé travailler, où on aurait aimé évoluer. C'était pas tant sur quel service précis on allait offrir, mais plutôt ce qu'on allait créer dans un esprit de communauté. Puis, si on regarde tous les services qu'on propose aujourd'hui, c'est des services d'influence, de connexion. Le volet humain est encore super présent dans tout ce qu'on fait. C'est des interactions, c'est des connexions. C'est presque plutôt une partie d'une vibe qu'un plan stratégique précis. On se le dit souvent, Marie-Noëlle et moi, notre travail évolue tellement qu'on n'a pas l'impression de faire du surplace jamais parce que l'entreprise grandit et c'est des nouveaux défis.
Quand tu étais au début de l'agence, vous aviez quelques clients. Ça se spécialisait en quoi?
Mais au tout début, c'était surtout des clients, des jeunes designers locaux. On pense à l'époque à Falbala, à Dimba, à Body Bag by Jude. C'était beaucoup spécialisé en mode. Puis rapidement, on s'est fait reconnaître par des marques. À l'époque, Triple Five Soul, Emily Destrain, des marques américaines, mais qui avaient besoin de services au Québec. De là, on découlait des clients plutôt en lifestyle, en beauté, dans l'art de vivre. Puis maintenant, on fait de la fintech. Donc, ça allait vraiment évoluer au fil des ans, mais toujours dans un esprit de communiquer de façon claire puis directe aux bonnes cibles.
Est-ce que j'ai l'impression que Bicom a pris son envol quand même assez rapidement au niveau de ses clients. Tu as nommé plusieurs, que vous êtes allé chercher des marques ailleurs qu'au Québec. Ça faisait partie de votre plan ou vous étiez surprise de décrocher des gros clients, des grandes marques?
Mais en fait, il nous est arrivé une anecdote un jour où on travaillait avec Safilo, le distributeur de montures, puis on avait fait le lancement d'une monture solaire pour Banana Republic, mais on avait été mandaté par Safilo. Banana Republic, le groupe Gap, ont remarqué toute la couverture de presse qui avait été générée Donc là, ils nous ont téléphoné, puis ils nous ont dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Je pensais que j'allais mourir au téléphone. Mais finalement, ils étaient super contents, puis ils ont voulu nous rencontrer. Et je n'oublierai jamais cette journée-là dans ma vie. Je pensais que j'allais pas chicaner. Finalement, ils ont voulu nous offrir Old Navy comme client, puis après ça, on a eu Gap. Et ça fait honnêtement, ça doit faire 12 ans qu'on travaille avec eux, année après année. Là. Des clients qu'on adore, puis qui nous ont fait confiance très tôt.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui a changé finalement avec eux en voyant toute la couverture que vous alliez leur donner, mais j'imagine que depuis vos débuts, le genre de couverture a changé parce qu'au départ, on parlait beaucoup au niveau des couvertures médias, que ce soit de la télévision ou des magazines. La façon de faire des relations ou de se faire voir par les marques a énormément changé. Comment vous approchez ça de votre côté?
Nous, déjà, on a vécu quand même l'arrivée des réseaux sociaux. Lot de blogueurs à l'époque qui n'étaient pas nécessairement des influenceurs, mais vraiment des gens qui tenaient des blogs. Puis toute la création du contenu, l'instantanéité aussi. Avant, quand on annonçait une nouvelle, les magazines allaient en parler dans 4 mois. Mais là, on a dû s'adapter à la gestion des primeurs aussi. Si on dévoilait une parole, par exemple, des choses comme ça, c'est vraiment mis à considérer toutes ces variables-là qui se présentaient à nous. Puis ça nous a amené aussi à diversifier notre offre avec le marketing d'influence très tôt. On parle de début 2010, il y a bientôt 10 ans, avec les boissons énergétiques Gourou, on a été une des premières agences canadiennes à faire du marketing d'influence, c'est-à-dire d'envoyer des produits à des gens qui avaient une grande portée sur Twitter à l'époque, ça date, puis qui nous ont fait des posts de façon gracieuse parce qu'on les avait approchés de façon hyper personnalisée pour les produits puis qui nous partagent leur expérience. Donc, le marketing d'influence a pris de la place assez rapidement dans notre mix marketing et notre offre.
C'est pas nécessairement difficile d'intégrer ça, ça a seulement été une évolution dans votre approche avec les clients.
Je pense que oui, puis le fait qu'on était, je suis encore jeune, on était dans le changement, on était instigateur du changement à la limite. Donc, pour nous, c'était pas comme de prendre une agence qui existait depuis 15 ans, puis tout d'un coup, de devoir s'adapter. On vivait ça en temps réel, là. Donc on n'a pas senti de cassure nécessairement.
Ça fait partie intégrante de votre façon de voir les choses maintenant avec les influenceurs. Est-ce qu'ils prennent une énorme place dans votre pitch quand vous approchez des clients ou est-ce que les clients vous les demandent immédiatement ou est-ce que les influenceurs font seulement partie du portfolio et des fois vous faites affaire avec des influenceurs, des fois non? Comment ça fonctionne?
C'est vraiment du cas par cas. Je dirais que là, il y a comme un espèce de mouvement où on dénonce un peu les influenceurs, où il y a un retour du balancier, ils ont pris beaucoup de place, il y a eu certains abus, il y a eu certains moments où ils ont demandé, je sais pas moi, des chambres gratuites dans des hôtels, ça fait tout autour du monde certaines personnes ont un peu abusé de leur statut, mais en même temps, on croit pertinemment que les influenceurs ont une place dans nos stratégies. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'un peu quand les réseaux sociaux ont commencé, on se retrouve parfois avec des gens qui nous approchent, ils veulent faire du marketing d'influence, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils veulent juste le faire parce qu'ils savent un peu qu'ils veulent le faire. Fait que là, à ce moment-là, on prend le temps de s'asseoir puis de voir c'est quoi exactement les objectifs du client puis qu'est-ce qui est important pour eux puis de trouver des influenceurs aussi qui correspondent vraiment à la cible qu'on veut atteindre. Puis maintenant, avec les outils performants qu'on a, on peut même voir les gens qui suivent l'influenceur, ils sont dans quel pays, ils sont dans quelle province et même ils sont dans quelle ville. Donc, si on travaille avec une influenceur, par exemple, ici pour un restaurant montréalais et que tous ses abonnés sont en France, parce que ça peut arriver, à ce moment-là, c'est peut-être pas stratégique d'investir tant sur cette personne-là si on ne vise pas la clientèle touristique, mais plutôt les gens locaux. Donc, on a accès à énormément de données, puis ça nous permet d'éclairer puis de nourrir nos stratégies.
Oui, et toi, tu es une fille de statistiques, donc tu aimes ça, aller chercher toutes les données, j'imagine, pour essayer de travailler avec les clients pour leur montrer l'efficacité de certaines campagnes versus d'autres qui sont peut-être moins importantes.
Exactement, puis je suis pas... on a une équipe de numérique ici qui est à l'affût de tous les derniers algorithmes des différentes plateformes. Moi, je suis moins au courant de tous les détails, mais depuis mon plus jeune âge, j'ai un intérêt marqué pour tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles façons de communiquer. J'avais, pour l'anecdote, à l'âge de 13 ans, j'avais monté un site web moi-même, chose que je crois pas que je pourrais refaire aujourd'hui. Et c'était un centre d'achat virtuel. Donc, sur les pages Géocities à l'époque, j'avais mis les logos de trois des marques que je préférais. Puis quand on cliquait sur le logo, on se rendait sur la page qui était juste une page. Là. Il n'y avait même pas de titre. Sur la page des clients. Puis là, j'avais l'impression que j'avais révolutionné le commerce. J'avais inventé le commerce en ligne. On parle à cette île en 1994. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours suivi ça, mais c'est sûr que j'ai personnellement un intérêt marqué pour tout ce qui est innovation, nouvelles technologies. Donc, c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, on s'entoure ici des bonnes personnes, puis on garde toujours le cap sur c'est quoi les nouvelles tendances.
Je pense pas, Vicky, qu'on a dit c'est quoi exactement le nom de ton poste à Bicom. Donc, vous êtes deux partenaires, dans le fond, à Bicom. Et toi, ton poste en particulier, c'est quoi son nom?
Chef de la direction et partenaire fondatrice.
OK, donc, et toi, de ton côté, finalement, est-ce que c'est toi qui vas chercher les clients, qui développent des stratégies? C'est quoi ton focus quand tu travailles durant la journée?
Dans le quotidien, c'est de veiller à la vision de l'agence. Où est-ce qu'on s'en va dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Quel genre de services on veut offrir, quel genre de partenariat on peut faire avec d'autres joueurs dans notre industrie, être au courant de tout ce qui se passe en termes des industries de nos clients, aussi la beauté, la mode, l'alimentation, maintenant un peu les technologies de plus en plus. Puis, mon associée, Anne-Marie-Noël, veille vraiment à tout ce qui est opération, donc les ressources humaines, s'assurer qu'on a les bons talents, les bonnes personnes aux bonnes places, que ça se réveille aux finances aussi. Puis moi, je joue un rôle important beaucoup aussi au niveau du développement des affaires, donc aller chercher des nouveaux clients, s'assurer que nos clients actuels on répond bien à leurs besoins. Mais maintenant, on a une équipe d'une quarantaine de professionnels. Donc, on a des directrices, on a une VP opération stratégie qui s'assure de la qualité de nos services. On est vraiment une belle équipe là, pour s'assurer que ça repose pas uniquement sur nous deux non plus. Mais on a rapidement compris qu'on devait s'entourer des meilleures personnes. Moi, je suis tout le temps que le plus que mes collègues rapprochés peuvent m'apprendre le mieux.
Ouais.
J'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir. Je sais que ce qui m'intéresse, mais après ça, c'est pas moi l'experte, tu sais.
Mm-hmm. Est-ce que tu as fait des études en particulier pour arriver là où tu es ou, comme on dit, tu as appris beaucoup sur le tas?
J'ai appris énormément sur le tas parce qu'à l'âge de 19 ou 20 ans, j'étais serveuse à cette île l'été. Je retournais là-bas. Puis quelqu'un m'avait fait une blague sur les relationnistes et j'ai dû chercher dans un dictionnaire papier le soir parce que je savais pas c'était quoi. Donc, et maintenant, j'ai une entreprise de relations publiques, en fait. Mais, donc, moi, j'ai pas étudié en relations publiques. J'ai étudié en marketing de mode au Collège de la Salle, puis ensuite en gestion production de mode à l'UQAM, à l'École supérieure de mode de Montréal. Donc, c'est dans le cadre d'un stage que j'ai découvert les communications. C'est pas quelque chose qui m'était prédestiné. Mais, par exemple, l'entrepreneuriat comme tel, ça, c'était un petit peu écrit dans le ciel. Mon père est entrepreneur. Je le suivais. Même, j'assistais des fois quand il faisait des négociations. J'étais très jeune, puis il fallait qu'il me traîne avec lui. Fait que je le voyais négocier le prix des poissons qu'il pêchait. Puis après ça, je me suis mis à vendre des choses au parc à l'âge de 6 ans, 7 ans. Je faisais des ventes de mes anciens jouets. J'avais ramassé des sous en 6 $, puis je n'avais pas dit à personne. Quand on allait visiter ma grand-mère, puis je me souviens que je me disais, oh my God, je vais aller au dépanneur sans demander la permission. Je suis autonome. Je me souviens de le feeling de liberté que m'avait procuré mon 6 $. Je pense que c'est la relation que j'ai gardée avec l'argent. Tu sais, je travaille pas comme une folle parce que je veux de l'argent. Je travaille comme une folle parce que je tripe sur ce que je fais. Mais après ça, si ça me permet de moins me casser la tête, tant mieux.
Ça te permet d'aller t'acheter des bonbons dépanneurs sans problème.
Oui, c'est ça. Ou un petit week-end à New York sans demander la permission à personne. C'est parfait.
Ça, c'est parfait, exactement. J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Je sais que chez Bicom, on parlait un peu d'influenceurs avant, mais je veux qu'on revienne sur ce sujet-là parce que vous avez le B Nation qui est vraiment important pour toi. Et ça fait quoi, à peu près un an et demi que ça existe?
Oui, en fait, ça fait un an et demi qu'on a lancé B Nation. C'est la première banque canadienne de nano-influenceurs, plutôt une communauté de nano-influenceurs. C'est des gens qui ont 1 000 abonnés et moins au Québec, 3 000 abonnés et moins dans le reste du Canada. Puis, ce sont des gens qui ne sont pas des vrais influenceurs, puis ils ne veulent pas le devenir non plus. C'est des monsieur, madame, tout le monde que leurs amis, leurs collègues, leur famille consultent pour avoir des recommandations, que ce soit pour un produit beauté, un resto. On voit tout de suite quand on écrit sur Facebook, on demande une recommandation. On sait à peu près qui va nous répondre, puis qui va avoir des bons insights. Je vais le faire justement pour une destination voyage. Les gens leur font confiance dans leur entourage. Donc là, ça nous a porté à vérifier notre hypothèse. Donc, pour vérifier notre hypothèse, on a fait un sondage pan-canadien qui nous a prouvé que quand on connaît quelqu'un dans la vraie vie, une fois rendu sur les réseaux sociaux, cette personne-là, le taux de conversion de sa recommandation est 10 fois plus élevé que si on avait lu un article d'un journaliste, vu un post d'influenceur ou encore si c'était une célébrité qui s'était prononcée sur cette recommandation-là. Mm. Fait que le pouvoir du bouche à oreille, plus fort que jamais, surtout dans une ère de fake news, d'influenceurs que je suis démasquée. Oui. On sait que maintenant avec les hashtags ad, et etc., on voit qui a eu une compensation. Donc nous, on active ces gens-là, on a des gens de partout au Canada. On a, par exemple, 100 personnes qui sont véganes, 75 personnes intolérantes au lactose. Pour l'instant, c'est pas des chiffres énormes, mais c'est des vraies personnes qui attendent juste de recevoir des produits pour en faire l'expérience puis en partager, faire le partage sur leur plateforme de façon complètement authentique, là.
Est-ce que tu es surprise du taux de succès quand vous lancez une campagne avec ces gens-là, les nano-influenceurs?
Ben, en fait, ce qui m'a surpris, je dirais, c'est différents aspects qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Par exemple, j'avais prévenu les clients qu'il y aurait peut-être des fautes et que les photos ne seraient pas belles. Et les gens font un effort, le contenu il est très beau. Il y a des commentaires, par exemple, sur des produits de beauté qui sont réfléchis, qui sont bien écrits, ce qui fait en sorte que c'est devenu un outil de création de contenu aussi pour les marques qui peuvent, avec la permission des gens, réutiliser ces témoignages authentiques-là. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Puis, à date, en un an et demi, on n'a eu aucun commentaire négatif. C'est une autre des peurs aussi des clients, un peu, de dire qu'est-ce qui va se passer s'ils n'aiment pas du tout le spectacle, puis ils vont me détruire auprès de leurs amis. Mais finalement, les gens, je dirais, à 80 % vont publier. Puis le 20 % on fait des suivis avec tout le monde. S'ils n'ont pas aimé ou quoi que ce soit, ils nous partagent l'information, mais ils ne vont pas publier du négatif non plus, tu sais.
Okay.
Donc, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment, ça peut servir de focus group un peu ou de format de test pour certaines choses.
Parce qu'on est quand même à l'ère de l'authenticité. En ce moment, j'ai l'impression que c'est le mot le plus pris en ce moment au niveau des influenceurs parce que les gens recherchent l'authenticité vu que on a été habitué à des images ultra léchées ou à des pubs qu'on se fait pitcher un peu n'importe quoi, n'importe comment et on sait plus trop à qui se fier. J'ai l'impression que la façon que tu en parles, les nano-influenceurs peuvent renverser un peu la balance sur les médias sociaux en disant ben eux sont authentiques parce que ils ont rien à prouver, finalement sont tout simplement là pour dire comme moi, j'ai aimé tel resto, j'ai aimé tel produit, j'ai aimé.
Puis, ils n'aspirent pas, ils ont une job de jour, comme je dirais. Ils aspirent pas à devenir des vrais influenceurs. Ils veulent juste partager leurs trouvailles. Puis, quand on parle d'authenticité, ça me fait penser, on assiste à une espèce d'extrême authenticité là, où tout le monde tombe dans la vulnérabilité. De mon œil très personnel, externe, des fois, je me dis, mon Dieu, ça a l'air un peu exagéré. Là. On est passé de parfait à parfaitement en train de pleurer puis de partager des choses super intimes. T'sais.
Parfaitement cerné, parfaitement cheveux sales et parfaitement fatigué.
Parfaitement dépassé par la vie. Oui, exactement.
C'est des courants, tu sais, comme on se disait un peu. Au début, c'était pour être bien mis de l'avant sur Instagram, il fallait se mettre en maillot, les gars fallait qu'ils montent leur abdos et tout ça. C'est ça, c'était vraiment important. Après ça, c'est devenu les fashionistas avec du contenu super léché. Là, certains embarquent vers l'authenticité où on est en train d'être à terre sur le plancher, en train de vouloir dormir, puis c'est ça notre vie. Tu sais, j'ai l'impression que chacun suit le mouvement un peu qui nous accroche, mais que les followers, les gens sont pas niaiseux, ils se font pas avoir au début, embarquent dans cette vague-là, mais assez rapidement, je pense que c'est décodé et c'est dénoncé, ou en tout cas, on se fait moins prendre pendant longtemps dans ce genre de mouvement-là. C'est mon impression.
Je pense que si on veut refléter la vraie vie, et puis je suis pas là pour donner des conseils à personne, mais s'il y avait... Tu sais, on allait pour une balance d'une journée, ça va pas, je partage. Une journée, je me sens super belle, je vais sortir. je partage. Puis, tu sais, je pense que l'authenticité, si on revient à ça, ce serait de bien balancer le beau, le moins beau.
Fait que là, Bicom, présentement, a un bureau à Montréal, un bureau à Toronto.
Oui, puis on est en train de négocier pour Vancouver aussi présentement, pour avoir une présence constante là-bas. Actuellement, c'est nos équipes qui voyagent, où on a des partenaires là-bas, mais on est en train de voir à s'établir là-bas. D'ici peut-être Noël, d'ici les prochains mois.
Qu'est-ce que ça vous amène d'avoir une équipe à travers le Canada comme ça? Qu'est-ce que ça permet de développer?
Bien, en fait, pour nos clients, ça leur permet d'avoir le pouls sur les différents marchés. Puis comme on est moins dans les médias traditionnels de masse, mais plus dans tout ce qui est ciblé, dans ce qui est local, qu'il y a des saveurs, de faire vivre leur marque de façon, en conservant leur ADN, mais en ayant une petite saveur locale. Je pense que d'avoir des gens sur place pour en être les ambassadeurs, parce que c'est un peu ça. Nous, on représente nos clients, mais on est leur porte-parole, leur ambassadeur auprès de toutes les différentes communautés, que ce soit des journalistes, des influenceurs ou encore des célébrités. Donc, c'est drôle parce que chaque année, on fait un sondage pan-canadien auprès de nos journalistes et influenceurs pour leurs préférences. C'est pas un sondage qui est publié, c'est vraiment pour nous à savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent puis comment ils aiment qu'on collabore ensemble, tout ça. Puis les différences sont assez marquées entre les différents territoires, tu sais. Par exemple, aussi, c'est pas une grande nouvelle scientifique, mais à Toronto, après le bureau, les gens, souvent, ils préfèrent rentrer à la maison, tu sais. Tandis que nous, si on peut se tirer dans un sac à sable, on va y aller.
Oui.
Ça nous permet aussi d'adapter nos façons de faire. Puis avant de faire aussi, les gens quittent tôt après le bureau. Puis souvent, parce qu'ils vont faire du sport, l'équilibre de vie-travail à Vancouver est assez primé. Ouais.
Oui.
Donc, ça nous permet de bien servir nos clients avec les petites saveurs locales, en fait.
Est-ce que tu as un désir de te développer ailleurs qu'au Canada?
Bien, pour l'instant, on a des clients aux États-Unis pour qui on fait du travail au Canada. Donc, des clients qui sont basés à New York. Puis ça, c'est vraiment chouette. Ils nous font confiance. Business-wise, c'est des contrats qui sont super intéressants. On a beaucoup de latitude. C'est vraiment agréable. Dans l'autre sens, on fait des campagnes de marketing d'influence aux États-Unis de plus en plus pour nos clients. Puis la demande est grandissante pour tout ce qui est médias, relations médias aussi. On en fait une partie à partir du Canada. On en fait une partie avec des partenaires locaux. Mais on envisage avoir une équipe aux États-Unis. Je suis très dans un horizon peut-être de 3 à 5 ans ou avant. Mais
est-ce que tu es surprise de t'entendre parler de ça? Oui, c'est ça.
Non, je ne suis pas surprise parce que moi, j'ai dans ma. Tu sais, depuis que je suis toute petite, que je vois assez grand. Tu sais, je viens d'un petit village de pêcheurs qui s'appelle Havre-Saint-Pierre. Puis quand on allait à cette île, la ville la plus proche, à 2h30 de voiture, c'est sur la côte nord pour les gens qui sont moins familiers. Je voyais les lumières de l'usine au loin. Puis je disais à ma mère, maman, ça, c'est New York. Moi, quand je vais être grande, je m'en vais là-bas. Mais tu sais, finalement, j'ai croit que c'était l'usine et que j'étais à 14 heures de Montréal, donc assez loin de New York. Oui. Mais j'ai toujours, puis je suis partie étudier en Italie, j'avais 17 ans, j'ai tout le temps été super attirée par tout ce qui a trait à l'international, mais ça ne veut pas dire non plus que je vais partir, déménager, je vais me mettre à voyager chaque semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on a des opportunités de développer des projets avec des partenaires qui nécessitent moins de déplacements physiques, mais on peut faire des alliances facilement. Là, je parle beaucoup avec des partenaires à Shanghai actuellement. C'est sûr que les horaires ne sont pas top, là. Des fois, je suis très fatiguée le soir, puis on se fait des WeChat sessions, puis je m'endors, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin, on a des discussions importantes, j'ai pas besoin d'être là en personne pour avoir ces discussions-là. Fait que je pense qu'il y a comme quelque chose de. L'international est plus accessible que jamais. Puis je pense que moi, mon rêve, mon souhait, puis notre souhait, en fait, c'est éventuellement de pouvoir livrer un client dans plusieurs pays. Puis que la marque soit représentée, puis que nous, on se partage l'information entre partenaires, puis que ce ne soit pas tout fait en silo comme c'est souvent le cas actuellement.
Là, en tant qu'entrepreneur, là, on a parlé de Vancouver, on a parlé de New York, mais est-ce que tu as un client ou est-ce que tu as une sphère de sujets, de thèmes que tu aimerais développer pour Bicom plus tard, ton ambition, ton rêve? Qu'est-ce que tu as en tête?
C'est une grande question. Mais moi, mon associé, moi, depuis jour 1, on s'est toujours dit qu'on va continuer jusqu'à ce qu'on se lève un matin, puis ça marche plus ou ça nous tente plus, puis on fera autre chose. Il faut que ce soit le fun. Fait que quelle forme ça va prendre, quelle envergure ça va prendre. C'est sûr qu'on est toutes les deux des filles de projet, de défis. On voit grand, mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais moi, je pense qu'à travers tout ça, on va chercher à faire le bien aussi, à s'assurer que, oui, on contribue maintenant à l'économie du Québec avec notre... c'est pas énorme, mais avec nos employés, avec ce qu'on fait, ce qu'on génère comme revenus puis comme dépenses et tout ça, mais d'avoir une marque peut-être plus au niveau d'une cause ou d'apporter un changement ou de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Je sais pas, mais là, ce qui m'allume beaucoup, c'est j'aimerais qu'on travaille avec un client comme qui va révolutionner une industrie. Tu sais, je pense à Tesla, par exemple. Je pense à des gens qui sont en train de changer notre futur, mais des personnes un peu, des fois, qui peuvent sembler des visionnaires. Tu sais, j'aimerais ça embarquer dans la ride de supporter quelqu'un qui a un projet qui va changer. Ça, ce serait vraiment hot.
Ça serait, ça serait énorme. Et on irait sur Mars avec Bicom, finalement.
Ben peut-être pas jusque-là, mais Elon, il a fait quand même plusieurs choses que n'importe qui aurait dit que ça allait pas se passer. Là. Il doit être très difficile à gérer en relations publiques. Je suis pas sûre. Que j'aimerais ça qu'il m'appelle le dimanche matin parce que il y a tel article qui est sorti.
Il a fait un tweet qu'il ne fallait pas faire. Mais...
c'est ça. Mais non, moi, je pense d'être aux premières loges de l'innovation, dans le fond.
En terminant, je sais que tu es une maman. Comment tu vois ça avec tes enfants? Comment tu gères cette relation-là, famille-travail?
Bien, premièrement, j'ai toute une équipe autour de moi qui m'aide beaucoup. J'ai un partenaire qui est entrepreneur aussi, qui travaille aussi beaucoup, mais on s'organise toujours pour... On se donne la tag un peu. On s'organise toujours pour être là, soit lui, soit moi, en tout temps. J'ai une associée qui est super compréhensive, qui, si j'ai besoin de temps pour quoi que ce soit personnel, elle dirige le bateau. Il n'y a aucun problème, j'ai besoin de temps pour quoi que ce soit. C'est la même chose de ce côté-là aussi. On est toujours là une pour l'autre. Mm-hmm. Ensuite de ça, tout ce qui est... J'ai reçu beaucoup de trucs de femmes avec des carrières exceptionnelles que j'applique religieusement. T'sais, tout ce que je ne suis pas payante à faire, là. T'sais, comme faire les commissions, faire l'épicerie... Faire l'épicerie, j'aime ça, là, mais je sais pas souvent ça, mais je délègue des tâches aux gens qui m'aident. Par exemple, ma femme de ménage, elle peut faire des commissions. Quand je vais à Toronto, surtout, puis je suis pas là, elle va faire du pâté chinois pour les filles. Les filles mangent ça pendant 3 jours. Mes enfants, ils ont 2 ans et 5 ans. Donc, ils mangent du pâté chinois pendant 3 jours. Ils sont super heureuses. Puis moi, je la fais tranquille. J'ai une gardienne exceptionnelle qui va les chercher 3 fois par semaine, très tôt, à 3h30, pour qu'ils puissent rentrer à la maison, puis venir jouer un peu, puis souper. Donc, nous, quand on arrive vers 5h30, 6h, le souper est déjà pris. Donc, on a du temps de qualité avec elle jusqu'au dodo. Puis les 2 autres journées, je m'organise pour être là, puis aller les chercher plus tôt, tu sais. Je voyage, mais tu sais, tous les week-ends, on est ensemble en famille. Une fois de temps en temps, mon chum puis moi, puis parce que je pense que c'est excessivement important, on va se faire des longs week-ends, on va voyager ensemble. On part jamais plus que 3-4 jours. Mais sinon, on est là tous les matins, on est là tous les soirs. Puis j'ai sérieusement aucune culpabilité. Aussi, ce que je fais, c'est que je crée du contenu pour ma 5 ans. Donc, je vais faire des vidéos, je vais prendre des photos. Puis quand je rentre, j'explique tout le temps qu'est-ce que j'ai fait, un peu qui j'ai rencontré, puis pourquoi j'étais partie. Puis elle trouve ça à date, là. On est loin de la crise d'adolescence. Mais à date, elle est bien intéressée par ce que je fais. Oui. Quand maman n'est pas là, c'est parce que maman travaille, elle a une vie, elle vit des choses. Puis quand maman revient, ben je raconte un peu mes trucs, puis elle me raconte qu'est-ce qui se passe à l'école. Puis c'est comme notre petit moment, là.
Elle comprend.
Je prends toujours une Kit Kat sur mes vols d'Air Canada. Merci aux agentes de bord qui font que mon retour est habité. J'ai toujours une petite Kit Kat quand j'arrive à la maison.
Elle attend sa Kit Kat, puis ça, ouais, ça veut dire... C'est beau, maman, tu peux aller travailler, tu peux voyager en autant que j'ai ma Kit Kat, tout va
c'est
bien.
Ça, l'autre fois, j'ai pris Porter, puis j'avais pas de Kit Kat, puis elle s'en est rendue compte.
En terminant, Vicky, je veux savoir, c'est quoi la meilleure façon de te contacter?
Moi, je suis une bibitte de LinkedIn. Je réponds dans la demi-heure. C'est un réseau social que j'utilise énormément. Je suis très active sur LinkedIn. J'ai une grande communauté. J'adore lire ce que les gens partagent. C'est mon fil d'actualité, en fait. C'est là où je consomme la plupart de mes nouvelles. Sinon, par courriel, mon courriel est sur notre site web, bicom.ca.
Je veux savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
En fait, l'image que ça me ramène, c'est une femme qui est élégante, mais qui est forte, qui ne prie pas aux intempéries. Mais pour moi, c'est pas une image qui est dure nécessairement aussi. C'est une image qui est douce, c'est une image qui est juste solide. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, d'être solide, on parlait de vulnérabilité tantôt, ça veut pas dire de pas avoir de la peine ou des émotions non plus, ouais. Mais c'est d'être capable de pas perdre de vue c'est quoi nos objectifs, puis notre vision, puis pourquoi on fait les choses, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile, là. Puis tu le sais, là, toi aussi, t'es entrepreneur, puis t'es une maman, puis je veux dire, tout le monde, les gens en entreprise aussi, tout le monde a des journées moins bonnes, des journées meilleures, mm-hmm. mais tu sais, je pense qu'il faut pas se laisser abattre. Je pense que pour moi, femme de fer, c'est vraiment de rester debout malgré oui. tout. Ouais.
Malgré tous les problèmes et les échecs et les erreurs qu'on...
C'est ça. Puis il y a quelque chose que, si je peux me terminer avec ça, que Michel oui. Obama a dit en conférence, qui m'a troublée, puis qui peut-être alimente un peu mes réflexions aussi sur la marque que je voudrais laisser éventuellement, c'est qu'elle a dit, tu sais, les personnes qui sont ici dans la salle, les femmes qui avaient des bons postes, qui avaient des carrières, maintenant, là, vous êtes là, stand up for your sisters. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont pas là, qui n'ont pas cette chance-là ou qui sont pas rendues là, tu sais. Puis j'étais comme, oh my God.
Mon Dieu, je pense que je viens d'avoir des frissons que tu me dises ça.
J'en ai encore. C'est comme, on a une responsabilité.
Tellement. C'est extrêmement fort ce qu'elle a dit parce que c'est vrai qu'on est rendu à un point où on est assez forte, nous, mais que certains, puis on s'en rend pas compte des
fois. On oublie vite. Ouais. On oublie vite, ouais. Qu'on est, tout le monde n'est pas dans la même situation.
Exactement. Génial. Merci beaucoup, 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 Vicky, pour cette magnifique entrevue. J'ai hâte de voir où Bicom va aller dans les prochains mois, les prochaines années. New York s'en vient, Vancouver, ça c'est certain. On s'en reparlera.
Puis merci à toi pour ton support depuis toujours, Sophie. Ça me touche beaucoup ce que tu as dit en commençant. Qu'est-ce que tu as pensé à moi?
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine!